L'actualité des Alpes du Sud et les quatre gardes à vue prolongés dans l'affaire du petit Émile.
Hier soir, seul le grand-père Philippe Vedovini voyait la sienne prolongée. Ce matin, les enquêteurs ont indiqué poursuivre les gardes à vue pour les trois autres personnes entendues, à savoir la grand-mère Anne Vedovini ainsi qu'un oncle et une tante d'Émile. Ces quatre personnes sont entendues par les enquêteurs depuis hier matin, 6h30, près de 20 mois après la disparition du petit garçon, pour homicide volontaire et recel de cadavres.
Plus de 100 personnes contrôlées sur les routes à Guillestre.
Des verbalisations pour défaut de contrôle technique et surcharge dangereuse ont été dressées dans le cadre d'une opération des services de l'État. C'était le matin du 19 mars.
Le Conseil national de la montagne va-t-il être supprimé ?
Un amendement dans le projet de loi de simplification de la vie économique a été adopté dans ce sens lundi par une commission spéciale de l'Assemblée nationale. Valérie Rossi et Jean-Michel Arnaud, respectivement députés et sénateurs des Hautes-Alpes, montent au créneau.
Et puis l'Ubaï Freeride, un événement à retrouver ce samedi sur la station du Sauze.
C'est la dernière descente de la saison du Freeride World Tour Qualifier avec de l'enjeu pour les concurrents. Ils seront 80 venus du monde entier à batailler pour soit rester dans leur catégorie, soit connaître les joies de la montée au niveau supérieur.
Et garde à vue prolongée donc pour les quatre membres de la famille du petit Émile.
Les enquêteurs interrogent toujours ce matin le grand-père Philippe Vedovini, la grand-mère Anne Vedovini, ainsi qu'un oncle et une tante du petit garçon. Des gardes à vue qui ont lieu dans des lieux différents, dans les Bouches-du-Rhône. Tous les quatre ont été interpellés hier à 6h30. Ils sont entendus pour homicide volontaire et recel de cadavres. Des interpellations qui auraient été programmées par les enquêteurs. La voiture et la remorque de transport de chevaux du grand-père ont été saisis par la justice en fin de matinée hier lors de la perquisition du domicile des grands-parents. On écoute Pascal Antic, avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats.
Alors, homicide volontaire, ça veut dire, pour prendre un mot plus courant, meurtre. Ça veut dire d'avoir tué quelqu'un volontairement. C'est la distinction entre homicide involontaire, la distinction avec coups et blessures volontaire ayant entraîné la mort sans vouloir la donner. Donc homicide volontaire, ça a déjà une référence très précise. Ça veut dire qu'on se situe en tout cas à l'heure où le procureur écrit ses lignes dans le cas d'une enquête pour meurtre, c'est-à-dire un homicide volontaire de la part de celles et ceux qui sont soupçonnés de l'avoir commis. Alors recel de cadavre, ça veut dire que bien on a empêché le crime d'être découvert et qu'on a caché le cadavre. En l'occurrence, on l'a fait disparaître pendant quelques mois.
Il précise aussi que c'est dans une phase de vérification et de confrontation par rapport aux éléments recueillis lors des investigations. Hein, c'est ce qu'il dit dans le communiqué.
Ça veut dire que l'enquête progresse, ça veut dire que les grands-parents vont être auditionnés. Alors je suppose qu'ils vont être d'abord auditionnés séparément. Les enfants vont être auditionnés séparément. Il n'est pas impossible ensuite qu'il y ait des confrontations en fonction des auditions des uns et des autres, c'est-à-dire une confrontation entre les deux grands-parents, une confrontation entre les grands-parents et les enfants. La garde à vue, elle est de 24 heures, peut-être prolongée pour 24 heures supplémentaires. Donc, dans les 48 heures, je suppose qu'on en saura davantage.
On devrait donc savoir au terme des gardes à vue si les quatre membres de la famille seront mis en examen ou non. Le parquet précise que ces gardes à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois. Les grands-parents avaient déjà été entendus plusieurs fois, mais jamais dans le cadre d'une garde à vue. C'est donc une première dans cette affaire, Aurore Valory.
Émile Soleil avait disparu du hameau du Haut-Vernay le 8 juillet 2023 alors que le petit garçon de 2 ans et demi était sous la garde des grands-parents. Il venait d'arriver pour les vacances. Selon les éléments alors recueillis auprès de la famille, le garçon s'était réveillé de sa sieste et joué autour de la voiture de Philippe Vedovini. Ce dernier avait déclaré être en train de charger des piquets de bois en vue de travaux. C'est là que le jeune Émile aurait échappé à son attention. Les grands-parents avaient alors donné l'alerte. Un important dispositif de recherche avait été déployé sur place pendant des semaines en vain. Le 28 mars 2024, une mise en situation était effectuée au sein du hameau du Haut-Vernay. 17 personnes avaient été convoquées. 2 jours plus tard, soit 8 mois après la disparition de l'enfant, ses ossements avaient été retrouvés par une randonneuse. une zone qui avait été arpentée par les recherches lors de la disparition d'Émile, mais qui pouvait être très végétalisée en été, précisé le 2 avril 2024 le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Les analyses d'identification génétique avaient alors permis de conclure qu'il s'agissait bien de ceux de l'enfant de 2 ans et demi. Aucun traumatisme antémortem n'a été observé, précisé le procureur. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques, ajoutait encore Jean-Luc Blachon. À l'époque, aucune piste n'était privilégiée par les enquêteurs pour expliquer la mort de l'enfant entre la chute, l'homicide involontaire ou le meurtre. 45 hectares avaient été ratissés au mois d'avril 2024 dans le cadre de recherches méthodiques. En novembre dernier, on apprenait que des traces d'ADN partielles avaient été découvertes lors des analyses des ossements et des vêtements du petit Émile, de traces d'ADN étrangères à celles de la famille du garçon qui avait été découvert. Couverte très dégradée et en petite quantité. Nouveau rebondissement, le 13 mars dernier, une jardinière se trouvant à côté de l'église du Haut-Vernay avait été saisie par les enquêteurs. Opérant de nuit, ils avaient utilisé la technique du Blue Star, produit qui permet de révéler la présence de sang. La jardinière avait été emportée pour être analysée. Des traces de sang y avaient été découvertes.
Merci Aurore. Selon les premiers éléments, il n'y aurait pas de lien direct entre cette découverte et ses placements en garde à vue. Aucune mise en examen n'a été annoncée pour le moment dans le cadre de cette affaire par le parquet.
Plus de 100 personnes contrôlées sur les routes à Guillestre.
Une opération des services de l'État menée le matin du 19 mars, conformément aux directives ministérielles. L'objectif, assurer une lutte efficace et approfondie en matière de sécurité des flux et de contrôle routier. C'est ce qu'expliquent les forces de l'ordre. 12 véhicules légers et 55 utilitaires ont été contrôlés. Des verbalisations pour défaut de contrôle technique et surcharge dangereuse ont été dressées.
Un montard condamné après avoir tenté d'échapper aux gendarmes du peloton motorisé de Peruy.
Lors d'un contrôle de vitesse effectuée par les gendarmes sur l'autoroute A51. Un motard refuse de s'arrêter sur l'échangeur de Fort-Calquier. Il a fait demi-tour et pris l'autoroute en contresens sur la bande d'arrêt d'urgence pour fuir par la sortie Peruy-Lémé. Seulement, il a perdu le contrôle de son deux roues, blessé aux membres inférieurs lors de l'accident. Il a été transporté au centre hospitalier de Sisteron. L'individu circulait sans assurance et en défaut de permis. Le 18 mars dernier, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné le motard à 6 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans, une obligation de travailler et de payer les sommes dues, 3000 euros d'amende délictuelle et une annulation de son permis de conduire.
Et puis cette belle frayeur pour 3 skieurs de randonnée sur les hauteurs de l'Arche dans l'Ubaye.
Vers 10h30 hier, une avalanche s'est déclenchée avec une plaque d'une épaisseur de 30 à 35 cm de neige sur une largeur de 200 mètres environ. Selon le Dauphiné libéré, un des 3 skieurs enseveli a été dégagé par ses 2 compagnons bien équipés. L'homme enseveli vie était indemne, une avalanche qui n'a pas nécessité l'intervention des gendarmes du PGHM.
Dans l'actualité ce matin, cette question, le Conseil national de la montagne va-t-il être supprimé?
Un amendement dans le projet de loi de simplification de la vie économique a été adopté dans ce sens lundi par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Le sénateur haut alpin Jean-Michel Arnaud annonce que face aux défis que connaît la montagne, la réponse ne peut pas être la suppression d'un organe qui coordonne les conventions interrégionales de massifs et qui définit les priorités d'investissement, notamment via le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Le sénateur indique que si l'Assemblée nationale confirmait cette mesure, il se mobiliserait pour que ce Conseil national de la montagne soit rétabli lors d'une éventuelle seconde lecture au Sénat. De son côté, la députée haut-alpine Valérie Rossi dénonce les dérives d'un texte devenu prétexte d'un grand ménage idéologique et voit une attaque directe contre les territoires.
La ligne ferroviaire Paris-Briançon, une nouvelle fois pire ligne de France en 2024.
Selon le classement de l'entreprise Ville de Rêve, la ligne entre la capitale et la cité Vauban est la pire de France, avec une ponctualité à 52% pour 443 trains. En 2023, elle était de 50%.
Et la fréquentation toujours en hausse sur le réseau Altigo.
Une information révélée par la communauté de communes du Briançonnais compétente en la matière de mobilité. Entre septembre et décembre 2024, la fréquentation est en moyenne 14% supérieure à celle de 2023. 290 000 voyages en dehors des voyages effectués par les scolaires ont été comptabilisés. Pour Arnaud Murgia, le maire de Briançon et président de la communauté de communes, cette hausse s'explique par la bonne image véhiculée par le réseau, mais aussi aussi par un système de commercialisation plus simple et plus visible. Les abonnements mensuels ont augmenté, eux, de 62%. C'est même une progression de 75% pour la catégorie 25-69 ans.
2000 serviettes hygiéniques et 400 tampons récoltés lors d'une collecte solidaire dans le Guillestre-Trois-Quéras.
Un événement mis en place par la communauté de communes et la ville de Guillestre. Une femme sur trois est en effet confrontée en France à la précarité menstruelle. 4 millions de femmes et personnes menstruées manquent de protection périodique selon les derniers chiffres du gouvernement. Des protections qui seront redistribuées le 3 avril prochain à trois associations, le Secours Populaire, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge.
Enfin, l'Ubaï Freeride, événement à retrouver ce samedi sur la station du Sauze.
C'est tout simplement la dernière descente de la saison du Freeride World Tour Qualifier avec de l'enjeu pour les concurrents. Ils seront 80 venus du monde entier à batailler, explique Vadek Gorak, skieur professionnel et organisateur de cet événement.
Déjà, elle est complexe dans le sens où bon, il y a déjà un niveau qui est très élevé. Il y a plus de 21 nationalités. Il y a des gens qui viennent de Russie, du Canada, de quasiment tous les pays, en tout cas, qui pratiquent le ski. Et il y a des gros enjeux pour passer sur le niveau supérieur qui est l'antichambre des Coupes du Monde, le Challenger, ou même d'ailleurs ceux du Challenger seront présents pour potentiellement marquer des points et rester sur le Challenger. Donc en fait, c'est une étape vraiment très stratégique et c'est la finale, donc c'est la dernière de la saison, qui va permettre ces mouvements entre les niveaux. Donc là, ceux qui vont être les meilleurs à l'Ubaï Freeride vont passer sur le niveau d'au-dessus qui sont les Challengers et en étant sur les Challengers, on peut accéder aux Coupes du Monde. La particularité du freeride, c'est qu'en fait, on skie donc hors du domaine skiable. On est sur une montagne carrément, donc on point de départ au sommet, arrivé en bas de la montagne, sans tracé, avec un repérage qui se fait uniquement aux jumelles. Donc les riders, à partir du vendredi, seront sur place à repérer avec des jumelles la ligne qu'ils souhaiteraient faire. Et ensuite, le lendemain, ils montent à pied, donc il y a 1h30 de montée. Pour une compétition de freeride, c'est assez important, mais c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport. Et ensuite, le but, c'est de descendre le plus rapidement possible, en faisant le plus de figures possibles, sauter les plus grosses barres rocheuses possibles, le tout en étant le plus propre possible. Et à la fin, on a une notation qui nous classe dans notre catégorie.
Un grand village avec des festivités prévues sur la station du Sauze, avec des lots à gagner et des victuailles à déguster. Renaud Muselier, le président de la région Sud, est annoncé sur place.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.